Une bombe dans la brigade. Gendarmerie des Rousses. Quand Christine s'assit de l'autre côté du bureau, Raphaël sut qu'elle allait parler. Il se releva pour prévenir son collègue de ne pas le déranger. Elle avait, dans le regard, cette petite lueur de détermination. « Je n'ai plus rien à perdre », et sur le coin de la lèvre inférieure, une tuméfaction discrète. Quand ils avaient partagé ce moment en forêt, Raphaël lui avait fait promettre de lui rendre visite quand elle en éprouverait le besoin, de l'appeler ou de lui envoyer des messages si cela la soulageait, à toute heure du jour ou de la nuit. Il vivait seul. Aucun quotidien familial ne serait perturbé. Le silence opiniâtre de son ami d'enfance l'avait étonné puis inquiété. Pour autant, l'initiative revenait à la victime. Brusquer un petit animal blessé n'était jamais la solution pour en prendre soin. Christine avait besoin de baume sur ses écorchures à vif. 3 semaines plus tôt, lorsqu'elle tarda à rentrer de cette promenade réconfortante, elle essuya la colère de son mari. En temps normal, elle aurait encaissé en silence, passé le chiffon sur le comptoir et sur son cœur sali, broyé par la brutalité. Mais ce jour-là, oui, ce jour-là, Robert dégoupilla la grenade, ou plutôt, alluma-t-il la mèche reliée au baril de poudre. Peu importait la longueur du fil, le processus était enclenché. La progression fut lente, sans que rien ne puisse l'interrompre. Chaque instant depuis la forêt, Christine pensa à ses propres mots, à ceux de Raphaël, à son odeur et à ses mains, à sa fille, à sa vie, au bruit des feuilles autour d'eux, si éloignés de l'ambiance glauque de sa chambre à coucher et de son salon de mari. Elle mit du temps à mûrir le mécanisme, à égrener les jours du compte à rebours, à se remémorer la scène tragique avec sa fille, le matin et le soir, à revoir les détails et le diable qui s'y cachait. À chaque fois, un coup de poignard dans le ventre la pliait en deux et lui coupait le souffle. Jusqu'à la veille, la fois de trop, celle où elle eut encore plus de dégoût que les autres soirs de se faire besogner, celle où elle décida de résister et se fit cogner. Le monstre trouva comment faire en sorte qu'on ne le vit pas. Cependant, Raphaël avait l'œil. Il connaissait les techniques abjectes des maris qui abusent. Avec les années, le capitaine avait appris à détecter les ecchymoses sous le maquillage. La fois de trop permit à la mèche d'atteindre le baril. Il allait exploser. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais te dire ce qui s'est passé, même si j'ai honte. Cela ne sortira pas de ce bureau et tu me diras ce que je dois en faire. Je t'ai dit l'autre jour que Delphine nous avait avoué qu'elle préférait les femmes et que Robert était parti dans une colère terrible. Oui. Tu m'as dit aussi que ce n'est pas ce qui l'a fait quitter la maison. Il n'en est pas resté là. Un samedi, en milieu d'après-midi, Christine nettoie des verres derrière le comptoir. Les réservations pour le soir sont pleines et elle profite de ce moment de répit pour ralentir. Robert a demandé à leur fille d'aller refaire la chambre neuve pour des clients qui en ont un besoin urgent. Quand Christine se propose de l'aider, le père s'interpose violemment, prétextant qu'il faut qu'elle apprenne à se débrouiller seule et à travailler vite. Soudain, Christine entend des hurlements à l'étage, ceux de sa fille, ainsi que des voix d'hommes qui la traitent de folle, de sorcière, de salope. Elle s'élance dans l'escalier. On entend des coups contre les murs, d'autres hurlements encore. En arrivant sur le palier, elle croise Delphine, en larmes, criant de rage, la robe à moitié ouverte sur un sein dénudé, du sang sur le coin de la lèvre et les cheveux en bataille. Raphaël écoutait avec une attention singulière pour ne perdre aucun détail du discours ému et saccadé de Christine, qui reprenait son souffle à intervalles réguliers. On eût dit que son cerveau blasé et las oubliait de respirer pour en finir plus vite et qu'elle devait commander ses poumons pour ne pas succomber. Aucun sanglot n'étouffait sa voix. Seules 2 sources parallèles coulaient sans discontinuer de ses yeux fatigués. Le gendarme lui prit les mains pour l'encourager. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'ignorais pourquoi elle s'était battue. Je ne savais pas non plus si elle était blessée, il y avait du sang. Robert, au bout du couloir, en face de la neuf, l'insultait, en faisant des grands gestes dans sa direction. « Je vais t'apprendre, moi, ce que c'est de respecter les hommes. Quand je me suis approché et que j'ai vu deux clients réguliers du bar, dont l'un tenait sa main ensanglantée, je ne voulais pas y croire. J'ai regardé Robert et le type qui saignait, puis le plus jeune des deux. Il s'est justifié tout de suite en me disant « c'est Robert qui nous a demandé ». Je suis redescendu et j'ai été voir notre fille. Elle était dans sa chambre. Elle avait enfilé un pantalon et un pull et s'était nettoyé le visage. Elle fourrait dans sa valise tout ce qu'elle pouvait à la hâte, en remuant ses armoires. Elle m'a laissé entrer, puis elle a fermé la porte à clé. Elle a sorti son gros sac à dos de randonnée et elle l'a rempli de vêtements, ce qu'elle mettait toujours. Elle a pris quelques documents dans son bureau, son ordinateur, ses papiers. Elle a enfilé la bandoulière de son sac à main, a mis le sac à dos sur ses épaules, a saisi sa valise. Et avant de quitter la chambre, elle est venue me serrer dans ses bras, en me disant « Barre-toi, maman. Ne reste pas avec ce fou, barre-toi. » Et elle est partie. Après ce dernier mot, Christine s'effondra. Des débris de femmes qui retombent en une pluie de gravats et de longs sanglots qui vous transpercent le corps comme un vent du pôle Nord. Raphaël fit le tour du bureau, approcha une chaise près d'elle et la prit contre lui pour laisser le flot s'évacuer dans la sécurité contenue d'un uniforme. Elle criait.
« Je n'ai pas su la protéger. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. »
On la retrouvera.
Elle est peut-être morte.
Je ne crois pas, Christine. Elle s'est protégée en partant. C'est une battante, elle va se débrouiller. Et elle reviendra vers toi, j'en suis sûr. Un collègue entra sans bruit pour vérifier si Raphaël avait besoin d'aide. Il posa son index sur sa bouche pour lui demander d'être discret et leva le pouce pour signifier qu'il maîtrisait la situation.
Moi, je m'en fiche qu'elle aime les femmes. Je veux juste qu'elle soit heureuse,
murmura Christine.
Je sais. Tu m'aideras ?
Oui, je t'aiderai. Tu le sais. Il faut te protéger, toi aussi. Elle se tut, se referma après avoir tout donné, à bout de force. Quand Raphaël lui proposa de la raccompagner, elle refusa. Elle argua le besoin de marcher pour se calmer avant de rentrer, et l'impossibilité pour elle de revenir au restaurant dans une voiture de service de la gendarmerie. Un sentier longeait la forêt sur une partie de l'itinéraire qui reliait la brigade au centre-ville. Elle l'emprunterait pour respirer. « Laisse-moi au moins te raccompagner à pied sur un bout de chemin. »«
Ça va aller. J'ai besoin d'être seule. »
Il la regarda s'éloigner. Elle n'était plus qu'une ombre. Raphaël ne pouvait intenter aucune action. Christine ne voulait pas ébruiter l'affaire. Personne n'avait porté plainte. Il ignorait lui-même ce qui s'était réellement produit. En revanche, il savait qu'un grand pas avait été franchi par son ami et qu'un engrenage s'était mis en branle. De cela, il fut rassuré. Delphine avait pu s'évaporer n'importe où, en France, à l'étranger, et elle n'était pas prête de revenir. Elle avait eu la force de partir, elle trouverait celle de s'en sortir. Il eut un puissant mépris pour tous les tarés de la terre qui s'en prenaient aux femmes, et pour ce salaud de Robert en particulier. Il se sentit ridicule dans son uniforme qui ne servait à rien. Sa conscience protocolaire tenait en respect l'envie arbitraire d'y aller, de lui casser la gueule et de repartir avec Christine comme si de rien n'était. L'idée sortait du cadre de la procédure. Il en voulait à l'institution dont il faisait partie, de le contraindre à l'impuissance.